VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 août 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, fin de suspense en Angola, l'OMPLA a remporté les élections générales avec plus de 64% des suffrages. En RCA, le mouvement anti-Balaka menace de reprendre les armes. Paris va abriter une autre réunion pour tenter de barrer la route aux migrants clandestins. Réchauffement diplomatique, le Qatar annonce le retour de son ambassade à Téhéran, ce qui ne réjouit pas les autorités de Riyad. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Victoire du parti au pouvoir en Angola aux élections générales d'hier. João Lourenço, candidat du mouvement populaire de libération de l'Angola, l'OMPLA, succédera ainsi au président sortant José Eduardo dos Santos après ses 38 ans de règne sans partage. Eric Manirakiza.
D'après la Commission nationale électorale, l'OMPLA a remporté plus de 64% des suffrages exprimés. Cette victoire lui permet de conserver la majorité absolue des 220 sièges du Parlement. Son candidat, João Lourenço, deviendra le prochain président de la République. Il succédera à José Eduardo dos Santos, qui a décidé de quitter le pouvoir de son gré après 38 ans de règne. En revanche, M. dos Santos doit conserver la présidence du MPLA jusqu'en 2022. L'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, a recueilli 24,04% des voix. L'autre concurrent de taille, la CASAC, a récolté 8,56%. Le pays est secoué depuis 3 ans par une grave crise économique et le prochain homme fort de l'Angola a promis un miracle économique et de lutter contre la corruption.
En RCA, une milice anti-Balaka hausse le ton et met en garde la MINUSCA contre la poursuite des violences des hommes armés sur les civils. Les miliciens menacent de prendre à nouveau leurs responsabilités, comme c'était le cas le 5 décembre 2013 à Bangui. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
C'est l'aile dure du mouvement dirigé par Maxime Moukom qui a brisé le silence. Elle exige à la force onusienne de prendre ses responsabilités pour bouter hors du territoire national les mercenaires étrangers. Au cas contraire, elle prendra pour la deuxième fois ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et l'histoire. Richard Soumalekro, porte-parole de la coordination.
Je crois que la population a beaucoup souffert. Le peuple même a beaucoup souffert. Il faudrait que le pays soit pacifié. Il faudrait que le calme, la paix reviennent à ce que la RCA puisse aller de l'avant. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait que, effectivement, les populations civiles soient sécurisées et protégées.
La réaction de la MINUSCA ne s'est pas fait attendre. Vladimir Montero, son porte-parole.
Nous n'allons pas, contrairement à ce que certains demandent, et M. Mokom, entrer dans ce jeu de faire la guerre. Mais la solution, elle passe par le dialogue.
La République centrafricaine fait face depuis le début de l'année à une montée de violences. Plusieurs centaines de civils ont déjà péri malgré la présence de la MINUSCA, la mission de l'ONU pour la paix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le gouverneur de Gao, rejeté par ses administrés, a été remplacé par Sidiki Samake, précédemment gouverneur de la région de Mopti. Le gouvernement met ainsi fin à une crise qui a duré plusieurs mois entre le chef de l'exécutif régional et les populations de la cité des Askia. Correspondance depuis Gao de Boubacar Touré.
Le départ de Seydou Traoré, gouverneur de la région de Gao, a été salué par plusieurs personnes interrogées. Ceux qui se réjouissent le plus sont ceux-là même qui, depuis le 7 juin dernier, sont restés mobilisés pour son départ. Imrana Habiboulaye Cissé, responsable de la société civile de Gao, nous donne ses impressions.
Bon, nous avons accueilli la nouvelle avec joie, parce que c'était l'une de nos revendications principales. Nous prenons acte de cette décision. L'ancien gouverneur, nous allons lui souhaiter vraiment bonne chance. Ce n'est pas sa personne que nous détestons, mais c'est ses comportements que nous avons rejetés. Pour le nouveau gouverneur dont nous avons entendu sa nomination, nous lui souhaitons la bienvenue. Il sera chez lui, tant que Malien, et il va venir chez les Maliens. Nous sommes des Maliens, mais nous resterons sous nos gardes. Je crois qu'il va apprendre beaucoup de leçons par rapport à son prédécesseur.
Il faut rappeler que depuis le 7 juin dernier, les populations de Gao sont restées mobilisées pour exiger le départ de Seydou Traoré, gouverneur de la région de Gao. On lui reproche alors d'être cupide. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Les Burundais continuent de fuir leur pays en raison des sévices infligés par les Imbonerakure. Autant pour moi, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie des milices, bien que Bujumbura insiste que plusieurs regagnent le pays, selon un rapport publié jeudi. Le rapport de l'Initiative internationale pour les droits des réfugiés indique que les meurtres et les disparitions forcées de ceux qui ne seraient pas en faveur du régime continuent à être perpétrés dans le pays. Au Burkina Faso, les obsèques du président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifou Diallo, décédé le 19 août à 60 ans, ont réuni jeudi plusieurs milliers de personnes à Ouagadougou, dont de nombreuses personnalités. Présent depuis plus de 30 ans au sein du pouvoir, Salifou Diallo était un personnage clé de la scène politique burkinabé. Il a été élu à la présidence du Parlement burkinabé en décembre 2015, puis à la tête du parti présidentiel qu'il a cofondé en mars 2017. En Sierra Leone, 11 jours après les inondations catastrophiques, 810 personnes sont toujours portées disparues, a annoncé ce jeudi le porte-parole du gouvernement. Le bilan des morts confirmés vient dépasser légèrement le nombre de 500. L'armée et des experts venus notamment d'Espagne vont continuer à rechercher des corps ensevelis sous les habitations effondrées ou emportées par les coulées de boue survenues dans la nuit du 13 au 14 août, a ajouté le porte-parole, précisant que lorsque les recherches seront abandonnées, les zones les plus touchées par les inondations seront scellées et transformées en lieux de mémoire. En Zambie, la police a bloqué ce jeudi l'entrée de la cathédrale de Lusaka où l'opposant Hakainde Hichilema devait faire sa première apparition publique depuis sa sortie de prison le 16 août, après 4 mois d'une incarcération très controversée pour trahison. En Tanzanie, la principale organisation de défense des droits de l'homme a dénoncé le harcèlement par le gouvernement du président John Magufuli, des députés de l'opposition, plusieurs d'entre eux ayant été arrêtés dernièrement en violation de la loi et des principes des droits de l'homme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Qatar annonce le retour de son ambassadeur en Iran et le rétablissement de relations diplomatiques totales avec Téhéran, une décision qui risque d'envenimer les relations déjà tendues entre Doha et 4 pays arabes. Abdourahman Dia.
Le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué qu'il souhaitait renforcer davantage les relations avec l'Iran, pays avec lequel il partage le plus grand champ gazier du monde. Le rappel de l'ambassadeur du Qatar à Téhéran avait fait suite à des attaques en janvier 2016 contre des missions diplomatiques saoudiennes en Iran suite à l'exécution d'un dirigeant chiite en Arabie Saoudite. La décision du Qatar de renouer avec l'Iran pourrait ne pas plaire à son voisin saoudien. Le 5 juin, l'Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran. Le Qatar a rejeté les accusations de soutien au terrorisme. Le Qatar est dirigé, comme l'Arabie Saoudite, par une dynastie sunnite, alors que l'Iran est majoritairement chiite. Depuis le début de la crise du Golfe, l'émirat gazier s'est tourné vers l'Iran et la Turquie, notamment pour importer des produits alimentaires.
Le président français organise lundi après-midi à Paris une rencontre entre chefs de gouvernement européens et dirigeants africains pour tenter de conjuguer les efforts face à la crise migratoire. Emmanuel Macron a convié les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Mamadou Issoufou du Niger, mais aussi le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au cœur du transit des migrations des migrants d'Afrique vers les côtes européennes. Cette rencontre doit être l'occasion de réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires, a indiqué l'Élysée. En Arabie Saoudite, plus de 1 400 000 personnes sont arrivées pour le pèlerinage de la Mecque qui débute la semaine prochaine, ont annoncé jeudi les autorités du royaume. Au total, plus de 2 millions de fidèles doivent prendre part au Hajj cette année qui verra le retour des Iraniens Absent en 2016, Riyad avait rompu en janvier 2016 ses relations diplomatiques avec l'Iran après le saccage de son ambassade à Téhéran par une foule qui réagissait à l'exécution dans le royaume d'un dignitaire religieux. Et puis l'Union européenne a condamné jeudi les mesures prises par les autorités israéliennes contre 3 écoles palestiniennes en Cisjordanie occupée peu avant la rentrée des classes. Lundi, les équipements d'un bâtiment provisoire devant servir à un jardin d'enfants ont été saisis, tandis qu'une petite école primaire a été détruite mardi dans le sud de la Cisjordanie. Les responsables israéliens ont justifié ces mesures en expliquant que ces bâtiments et équipements n'avaient pas obtenu les permis nécessaires. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilly Dico.
Au Nigeria, la compagnie d'ingénierie et de construction chinoise a révélé que la ligne de métro d'Abuja sera achevée en décembre 2017. Le coût de cette première phase du projet de ligne ferroviaire d'Abuja est estimé à 823 millions de dollars. Cette somme a permis l'installation d'une ligne de 45 km qui couvre 12 stations d'arrêt et relie l'aéroport international au centre d'affaires. Les premiers tests seront effectués d'ici novembre. L'Angola a choisi la banque russe VTB pour arranger sa nouvelle sortie sur le marché des eurobonds. Cette opération devrait permettre à l'Angola, deuxième producteur de pétrole en Afrique, de lever jusqu'à 2 milliards de dollars. La première sortie du pays sur le marché international en 2015 avait été un réel succès. Elle avait apporté 1,5 milliard de dollars avec l'aide de la banque américaine Goldman Sachs. Cette fois, Luanda a misé sur la Russie qui finance déjà plusieurs projets en Angola. Pour sauver sa compagnie aérienne, l'Afrique du Sud envisage de vendre ses actions dans l'opérateur de téléphonie fixe Telkom. Cette vente lui permettrait de recapitaliser la South African Airways à hauteur de 757 millions de dollars. La question du sauvetage de la South African Airways divise car l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition du pays, estime qu'il faudrait privatiser la compagnie, mais le ministère des Finances avance qu'il est hors de question de la laisser couler.
Un générique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Et oui, avec de beaux duels en perspective, le tirage au sort a eu lieu cet après-midi depuis Monaco. A noter dans le groupe A le Benfica Lisbonne avec Manchester United, le FC Bâle et le CSKA Moscou. Dans le groupe B, le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain, Anderlecht et le Celtic Glasgow. Le groupe C avec Chelsea, Atlético Madrid, l'AS Rome et le club de Karabakh Agdam. Dans le groupe D, la Juve face au FC Barcelone, l'Olympiakos du Pirée et le Sporting Portugal. Dans le groupe E, Liverpool face au FC Séville face au Spartak Moscou et à Maribor. Dans le groupe F, Manchester City face à Naples, Feyenoord et le Shakhtar Donetsk. Et puis dans le groupe G, Monaco, FC Porto, Besiktas et Leipzig. Enfin dans le groupe H, le tenant du titre, le Real Madrid face au Borussia Dortmund, Tottenham et l'Apoel Nicosie.
Et l'info transfert de la journée, Ousmane Dembélé file au Barça.
Le FC Barcelone aurait finalement trouvé un accord pour acquérir l'attaquant français Ousmane Dembélé, selon le journal L'Équipe. Le transfuge du Borussia Dortmund pourrait, grâce à cet accord, devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. On parle de 150 millions d'euros.
Afro-basket dames, place au quart de finale, Nicolas.
Qui se joueront demain, puisque c'est la journée de repos ce jeudi. Hier, dans le choc du groupe B, les Nigérianes l'ont emporté 58 à 54 face aux Sénégalaises. On retrouve sur place Amdimsi pour VO Afrique.
Les choses sérieuses commencent ce vendredi avec le démarrage de la seconde phase de l'afro-basket féminin. En effet, les feuilles de la balle au panier auront droit à des quarts de finale équilibrés. L'Angola, leader invaincu de la poule A, fera face au Mozambique, tandis que le Mali, pays organisateur, qui a terminé à la deuxième place de cette poule A ira à l'assaut de l'Égypte. Le Nigeria, qui a fait chuter le champion en titre, va croiser la Côte d'Ivoire alors que le Sénégal retrouve le Cameroun, une équipe qu'il avait battue lors de la finale de la dernière édition à Yaoundé. Retenez que parmi les 8 formations qui ont décroché leur qualification pour ces quarts de finale, seules 2 équipes n'ont pas encore concédé de défaite. Il s'agit du Nigeria et de l'Angola qui ont réalisé un parcours sans faute.
Voilà, c'était Amdinsi pour VOA Afrique depuis Bamako et l'Afrobasket féminin 2017.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon. Cap à présent au dossier du jour et on commence par la RDC, où la ville de Lubumbashi est au cœur d'une insécurité grandissante depuis plusieurs semaines, de manière inexpliquée. Pour assurer la sécurité de la ville, les autorités ont annoncé la mise en place de l'opération Kibunu avec des patrouilles mixtes composées d'éléments de la police, des régiments FARD et de la garde républicaine. Narval Mabila.
C'est depuis plusieurs semaines que le Lochois crie à l'insécurité qui sème la terreur et la désolation dans plusieurs familles. Vols, viols, assassinats et les sorts réservés. Ici, certains Lochois rencontrés au centre-ville témoignent sous anonymat pour raison de sécurité.
La sécurité à Lubumbashi s'est vraiment empirée. On ne voit pas vraiment les retombées de l'opération Kibunu. C'est comme si on leur a donné l'aval d'une autre façon pour accentuer cet état d'insécurité. Puisqu'on ne peut pas comprendre si réellement il y a des patrouilles. Mais comment expliquer qu'il y a des tueries, qu'il y a des viols, l'écrêtement de balles presque chaque jour? En tout cas, ça nous dépasse. Hein. C'est comme si ceux-là qui sont censés pour faire la sécurité, c'est eux-mêmes qui sont à la base de cette situation.
Il y a beaucoup de gens qui arrêtent les passants même à 19h, à 20h. Ils les rapident de téléphone. Ils prennent de l'argent. Des fois même des habits. Si vous avez un bon pantalon, une belle chemise, on vous ravit ça. Et en pleine nuit, ce sont les mêmes militaires qui entrent dans des maisons pour piller, pour violer et qu'on sort. Alors nous nous posons la question, est-ce que l'opération Kibunu était là pour amener la paix, la tranquillité, ou bien l'opération Kibunu a été instaurée ou bien initiée pour créer une psychose dans le cœur donc des Louchois?
Face aux préoccupations louchoises sur la sécurité, la réponse du maire de la ville, Jean-Sker Sangoza Mutunda, est simple.
Pas dramatiser les choses. Il y a la sécurité à Lubumbashi. La situation est calme. Vous voyez que tout le monde est en train d'évacuer à ses occupations. Si nous ouvrons aujourd'hui la télévision, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ce qui se passe à Lubumbashi. Là-bas, ce qui se passe ailleurs, c'est ça l'insécurité. Mais ici à Lubumbashi, il y a la sécurité, il y a le calme. Tout le monde va à ses occupations. J'ai fait le tour de la ville chaque jour, la nuit. Les gens sont là, en train de vivre. Ils sont là, en train de siroter leur verre. Néanmoins, Lubumbashi n'est pas Lubumbashi il y a 10 ans. Aujourd'hui, Lubumbashi nage dans les 5 millions d'habitants. Lubumbashi est devenue une très grande ville, cosmopolite.
Qui dit vrai, alors que le Lochois dénonce l'opération Kibunu sur les bancs des accusés policiers et militaires, qui pour certains sont mal payés par le gouvernement? Explication de M. Michel, membre du mouvement citoyen debout congolais.
Vous savez, vous ne pouvez pas donner l'arme à quelqu'un qui est mal payé. Vous savez, le minimum militaire ici, il faut voir dans les conditions, ils sont logés. Il faut voir dans les conditions, ces femmes, leurs femmes mangent et leurs enfants. Il faut voir comment est-ce qu'eux-mêmes, là où ils habitent. Donc tout ça sont des problèmes. Vous savez, quand vous avez donné l'arme à quelqu'un, vous lui donnez l'arme et vous ne le payez pas. Voilà les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Il faut commencer maintenant donc à ravir des forces au lieu qu'ils soient payés par les...
Ici, à Lubumbashi, les dangers sont permanents où les bouts de canon font sa loi sans merci. Narval Mabila, Lubumbashi, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, projet innovant et prometteur pour convaincre les bailleurs de fonds à la table ronde de Paris prévue du 6 au 8 septembre 2017. Mais déjà l'opposition politique et la société civile émettent des réserves sur les éventuelles conclusions. Benjamina André Kodmadjigar.
À 3 semaines de cette messe internationale en faveur du Tchad, plus de 300 projets sectoriels compilés dans un document. Le plan national de développement PND sont déjà prêts à présenter aux partenaires. Selon le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Ngueto Yambaye, cette politique de développement est un financement projet par projet et non un appui budgétaire au trésor.
Les projets publics adoptés par les comités des experts s'apprécient à environ 4 000 milliards. Et nous mobilisons déjà à ce jour des projets privés d'un montant approximatif à 3 000 milliards. Le fait que le financement du PND soit un financement par projet, pour qu'un projet soit financé, il faudrait qu'il soit crédible, réaliste et bancable.
Ces projets comportent 4 axes, notamment le renforcement de l'unité nationale, de la bonne gouvernance et d'un état de droit, le développement d'une économie forte et compétitive, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Mbaïra Semismaël, économiste, membre de la société civile, se dit pessimiste quant à la gestion de ces projets si les bailleurs de fonds arrivent à les financer.
Entre les politiques annoncées et les politiques mises en œuvre ici au Tchad, il y a toujours des différences. Ce que les économistes appellent l'incohérence temporelle dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a eu déjà une conférence de bailleurs à Paris pour le financement du plan 2013-2015. Beaucoup de ressources ont été mobilisées, plus de 1 000 milliards de francs CFA. Mais qu'a-t-on fait de toutes ces ressources?
L'opposition politique menace d'envoyer une délégation à Paris pour une contre-conférence si le président Déby ne prend pas en compte sa principale revendication. Saleh Kebzabo est le chef de l'opposition politique tchadienne.
Nous sommes pour que les partenaires aident le Tchad à sortir du marasme. Mais il ne faut pas que nos partenaires se trompent entre Idriss Déby et le Tchad. C'est le Tchad qui mérite d'être aidé. Il faut aussi des conditionnalités politiques. Si le gouvernement s'enferme dans sa logique d'exclusion, nous n'excluons pas la possibilité de l'envoi d'une délégation de l'opposition à Paris pour une contre-conférence en rapport avec la société civile.
Pour Madeleine Alingui, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vu la crise financière et économique que traverse le pays, un homme politique soucieux du bien-être de la population ne parle pas comme ça.
S'il est du droit de l'opposition de se prononcer sur les sujets qui touchent le pays, cet exercice doit se faire dans la responsabilité et le sérieux nécessaire au rôle. Il est même surprenant que M. Saleh Kebzabo conditionne la tenue de la table ronde à des revendications politiciennes et partisanes.
André Kodumadindar Ndiamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Chine est devenue le premier investisseur en Afrique en termes d'argent injecté dans des projets sur le continent l'an dernier. C'est l'une des principales conclusions du rapport 2017 du Financial Times sur les investissements directs étrangers sur le continent. Les États-Unis restent néanmoins l'investisseur le plus prolifique en nombre de projets. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint l'économiste Primé Nyamouya.
On ne peut que se féliciter de cet engouement à la fois de la Chine et des États-Unis pour l'Afrique. Cela répond à un besoin économique évident, parce que ces investissements sont nécessaires pour booster la croissance économique en Afrique. Les États-Unis sont évidemment des investisseurs très importants. Les investissements directs étrangers américains se concentrent beaucoup plus sur les secteurs de pointe, sur le secteur de projets pétroliers, alors que la Chine se concentre plutôt sur les infrastructures en général.
Alors pour des dirigeants africains, Pékin est un partenaire non interventionniste qui investit notamment dans de méga projets. Est-ce donc un partenariat gagnant-gagnant?
Absolument. Je pense que la Chine, qui a aujourd'hui les plus grandes réserves du monde, a besoin de diversifier ces investissements, et l'Afrique ne peut être que gagnante. Les prix des matières premières vont également être boostés par la demande chinoise, qui est également aujourd'hui la première économie du monde, comme vous l'avez souligné. La Chine investit essentiellement dans des projets d'infrastructures hydroélectriques, les routes, les barrages, etc. Ce dont l'Afrique a besoin absolument pour l'instant. Pour ce qui concerne, par exemple, les investissements en infrastructure, on peut donner l'exemple de l'Éthiopie, où la Chine a financé un grand projet de réhabilitation de l'infrastructure des rails entre Addis Abeba et Djibouti, ce qui est une excellente chose pour cette région du monde.
Mais certains continuent de se poser cette question. Que cherche la Chine en investissant autant en Afrique? Que répondez-vous?
Mais la Chine cherche en Afrique ce que les pays occidentaux ont toujours cherché pendant des siècles. Il s'agit des matières premières, des débouchés pour les produits manufacturés et les services divers, les communications, etc. Compte tenu des immenses besoins des pays africains pour les investissements, moi je pense qu'il y a de la place, il y a largement de la place pour les États-Unis, la Chine ainsi que d'autres pays par ailleurs. L'Afrique ne peut être gagnante s'il y a des projets qui sont financés par, à travers les IDE, les investissements étrangers.
L'économiste Primé Nyamouya était en ligne depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap sur le Texas pour notre série sur ces Africains qui tentent de rejoindre les États-Unis en passant par la frontière mexicaine. Arrivés sur le continent par avion, leur long périple commence au Brésil, se poursuit par une traversée de plusieurs pays pour rejoindre le Mexique. Une fois franchi la frontière des États-Unis, commence alors le processus de demande d'asile. Pour nous en parler, Morgan Guiriek a joint Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial sur place.
Une fois qu'ils sont sur le territoire américain, les autorités d'immigration les saisissent. Ils demandent en fait leur demande d'asile. Il y a toute une procédure qui s'enclenche. La première, c'est que il va falloir déterminer qui va rester dans un centre de détention et qui va être relâché sur parole. Ces centres de détention pour immigrants sont comme des prisons. Et lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de cellules, ils les transfèrent dans des prisons où ils cohabitent avec d'autres criminels. Et très souvent, ils se retrouvent associés et considérés comme des criminels. Et ils utilisent certaines expériences qui les traumatisent à vie, quoi.
D'autant plus que certains viennent avec leur famille.
Les femmes et les enfants en bas âge ne peuvent pas rester dans des prisons. C'est le casse-tête. Cette famille camerounaise, la femme était enceinte avec leur petite fille de 4 ans. Et les autorités sur place ont clairement dit, soit on vous remet tous en déportation, soit on va libérer la femme et l'enfant et toi tu vas rester en prison. Bien évidemment, après avoir fait toute cette distance et tous ces sacrifices, il a accepté, il a dit ok, gardez-moi en prison et laissez ma famille partir. C'est des moments très difficiles, la séparation et la déception aussi. Il y a une certaine force, une certaine foi aussi que ces gens ont. Qui est assez inébranlable, ils sont vraiment prêts à tout. Si vous rencontrez le juge et que votre cas n'est pas accepté dans la première mesure, très souvent, vous vous retrouvez à voyager de centre de détention en centre de détention.
Mais d'autres sont plus chanceux et se retrouvent dans des centres. Comment ça se passe dans ces centres?
Ils sont passés devant le juge. Et soit leur cas a été approuvé, ils ont reçu une réponse favorable pour leur demande d'asile, ce qui leur permet de déclencher, en tout cas de continuer la procédure. D'autres sont plus ou moins en sursis. Et souvent, ces personnes qui sont en sursis sont relâchées dans des centres d'accueil munis de bracelets. Ces bracelets, en fait, sont le gage de liberté conditionnelle. Ils sont vraiment obligés de rester dans ces centres d'accueil-là, régulièrement, chaque semaine, aller rencontrer un officier qui va pouvoir valider ou attester de leur présence, obéissance vraiment aux différentes conditions qui ont été déterminées par le juge.
Et dans ces centres, il n'y a pas que des Africains.
Il y a beaucoup de Latinos, du Honduras, du Mexique. Et ces gens, ils parlent différentes langues, avec différentes cultures, avec différentes inclinations religieuses. Ils doivent vraiment cohabiter.
Ils se mettent ensemble ou est-ce qu'ils sont complètement éparpillés, ces Africains? Est-ce qu'il y a une mini-communauté africaine au sein de ces centres?
Ils vont se rassembler par groupes de personnes qui parlent la même langue, d'Afrique de l'Est ou d'Afrique de l'Ouest, certaines habitudes culinaires. Ils vont préparer ensemble, ils vont manger ensemble.
Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial au Texas. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Chek Chiro sur la supervision de Sims Lumami. Chang Wang était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.